Écho d'économie.
Le ciment gris se fait rare et cher à Kinshasa. Les chantiers s'arrêtent et les consommateurs s'inquiètent. Projet Grand Inga, 30 ans d'attente, encore au centre des débats à la DRC Mining Week. Nous en parlons dans cette émission avec Vika Dipanzu, conseiller au sein du Conseil économique et social de la RDC. Bienvenue à tous. Jocelyne Moussaou est à la présentation de ce numéro des Codes Économie. Le prix du ciment flambe à Kinshasa. En quelques jours, le sac est passé de 27 000 à 50 000, voire 60 000 francs congolais. Une hausse qui inquiète les consommateurs et bloque plusieurs chantiers. Reportage de Ben Chokuta.
Le prix du sac de ciment se négocie désormais entre 50 000, voire 60 000 francs congolais sur certains marchés, alors qu'il se vendait à 27 000 francs il y a quelques semaines. Une situation intenable pour beaucoup qui se plaignent amèrement et voient leurs travaux s'arrêter net.
C'est une situation bien délicate pour nous qui construisons. Je suis propriétaire des chantiers au niveau de Njili Brasserie, au niveau de Lembaïmbu et au niveau de Kinkole. Il y a de cela deux jours passés que j'ai envoyé mes travailleurs acheter du ciment. Ils sont venus me rapporter que le ciment actuellement se vend entre 15 et 16 dollars. Donc cette situation ne nous permet pas de continuer avec les travaux. Et là, nous sommes obligés d'attendre jusqu'à ce que le prix baisse.
Certains distributeurs de ciment, comme Modeste Moussanda, estime que cette augmentation est justifiée par la récente grève des chauffeurs des poids lourds.
La cause majeure, c'est la grève qui a été décrétée par les chauffeurs poids lourds il y a de cela 15 jours. Et gloire à Dieu, cette grève a été levée et nous espérons que d'ici la fin de ce mois, le prix pourront être revus à la baisse.
Début mai, l'hôtel de ville avait instauré des nouvelles mesures pour lutter contre les embouteillages, notamment celles limitant la circulation des véhicules poids lourds uniquement entre 22h et 5h du matin. Ce qui avait entraîné la grève des chauffeurs. Réunis en intersyndical lors d'un échange avec le gouverneur quelques jours plus tard, les conducteurs avaient dénoncé une décision qu'ils jugent précipitée et pénalisante pour leur secteur d'activité.
La RDC renforce sa coopération agricole avec la Chine. Un mémorandum d'entente a été signé mercredi à Pékin entre les deux pays en marge de la 4e exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tient à Changsha dans la province de Yunnan. Cet accord vise à intensifier les échanges commerciaux actuellement estimés à 100 millions de dollars américains. Encore une fois, retrouvons Ben Chokuta pour les détails.
Le président Félix Tshisekedi a mandaté son ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutchai Mutombe, pour faciliter l'exportation de produits agricoles congolais vers la Chine et attirer les investisseurs des entreprises agricoles chinoises. Avec cette coopération, la RDC ambitionne de devenir le grenier de l'Afrique. L'accord s'appuie sur l'expérience agricole millénaire de la Chine et prévoit un transfert des technologies, des investissements chinois en RDC et l'intensification des échanges commerciaux encore largement déséquilibrés au profit de Pékin. La Chine promet également des échanges scientifiques pour booster la recherche agricole en RDC, vue comme socle d'une agriculture résiliente. La production des semences, la mécanisation, l'irrigation et la fabrication d'engrais figurent parmi les axes prioritaires discutés entre les deux parties.
Sachez également que les exposants congolais font le plein à la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui se tient à Changsha en Chine. Les entrepreneurs congolais y ont présenté 47 produits dont le café, le cacao, le chocolat, le piment, le sésame, le soja, le manioc, l'huile de palme ainsi que quelques produits miniers. Trois membres du gouvernement représentent la RDC à cette édition. Thérèse Kayikwamba, Grégoire Moutchaïl Moutombe et Julien Paloukou. Les explications avec Blaise Ndongala.
Cette exposition se tient dans la province natale de Mao Zedong où les trois membres du gouvernement congolais encouragent les entrepreneurs qui exposent les produits made in Congo. À cette occasion, les ministres du commerce extérieur appellent les opérateurs économiques congolais à saisir cette opportunité offerte par les marchés chinois qui comptent au moins 1,48 milliard de consommateurs. Julien Paloukou Kaongia.
La Chine, c'est 1 milliard 400 millions de consommateurs. Et vous vous imaginez, si un opérateur économique congolais capte seulement un marché de 100 millions de consommateurs, vous voyez autant de milliards qu'il va commencer à gagner. Nous avons remobilisé davantage notre agence nationale de promotion des exportations pour qu'elle puisse encadrer tous les producteurs locaux.
Juste après, les ministres d'État en charge de l'agriculture et celui du commerce extérieur ont été reçus par les autorités de la province chinoise de Guangxi à avec lesquels ils ont décroché une série de partenariats dans les domaines du commerce extérieur, de l'agriculture ainsi que de la formation professionnelle. Grâce à cette diplomatie commerciale et économique, cette province chinoise s'est engagée à appuyer la modernisation de l'Office congolais des contrôles et de l'Office national des produits agricoles du Congo afin de garantir la certification des produits congolais dans les cadres du respect des normes internationales.
Écho d'économie.
Ouvrons à présent le chapitre mine avec la reprise partielle des activités dans la mine de cuivre de Kakula dans la province du Lualaba. La société canadienne Ivanhoe Mines a repris partiellement ses activités souterraines dans cette mine après une interruption causée par une inondation profonde liée à une activité sismique il y a 3 semaines. Dans un communiqué publié mercredi soir, Ivanhoe indique que ses équipes et équipements sont de retour depuis samedi dans la partie ouest de la mine. Les opérations y ont repris de manière prudente. Le complexe minier Kamoa Kakula est l'un des plus importants au monde pour la production de cuivre. Depuis l'annonce de l'incident, les investisseurs et les marchés de métaux suivent de près la situation. Cet épisode s'ajoute à une série de perturbations de l'offre qui alimentent les craintes des pénuries à l'échelle mondiale. Ivanhoe précise qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les plans de 2026 et 2027. Rappelons que le projet Kamoa Kakula est détenu par la Canadienne Ivanhoe, le groupe chinois Zijin Mining et l'État congolais. Le ministre de Mines a eu le privilège mercredi de lancer solennellement la 20e édition de la DRC Mining Week en l'absence de la première ministre chef du gouvernement à Lubumbashi. Dans son speech, Kizito Pakabomba n'est pas allé par 4 chemins avant de plaider pour une transformation responsable et souveraine du secteur minier congolais. Les explications avec Blaise Nungala.
Cette rencontre s'organise sous le thème 20 ans façonner les secteurs miniers de la RDC, investir dans les infrastructures et la sécurité énergétique. Dans son discours inaugural, le ministre des Mines salue des décennies de progrès marqués par la structuration du secteur, la croissance économique et l'essor des infrastructures énergétiques et industrielles. Kizito Pakabomba.
La République démocratique du Congo est reconnue comme premier producteur mondial de cobalt, deuxième producteur mondial de cuivre, un pays riche en lithium, terres rares, coltan, or et autres minerais critiques. Cependant, ces ressources sont épuisables et pour les générations futures, nous devons les exploiter de manière responsable. En effet, ces ressources stratégiques pour la transition énergétique mondiale doivent désormais servir au bien-être socio-économique de nos populations.
Tout en rappelant les acquis du code minier de 2002 et sa révision en 2018, les patrons des mines réaffirment l'engagement du gouvernement congolais à poursuivre les réformes en phase avec les programmes d'action du gouvernement 2024-2028. Kizito Pakabomba encourage enfin un dialogue permanent entre les gouvernements, les investisseurs et les communautés locales pour bâtir un secteur minier moderne, équitable et résilient.
Et à la DRC Mining Week à Lubumbashi, les travaux du Grand Inga en perspective de la desserte en énergie électrique des entreprises minières est un sujet qui a été au centre des débats. Pour Vika Dipanzu, conseiller au sein du Conseil économique et social de la RDC, cela fait plus de 30 ans que les travaux du Grand Inga n'ont jamais débuté. Vika Dipanzu est l'invité de l'économie. Il nous en parle dans cet entretien avec Paul Amunanga.
Monsieur Vika Dipanzu, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Vous venez d'intervenir dans un des panels. Qu'en est-il particulièrement des travaux concernant Inga 3?
Pour Inga 3, la situation est plus grave. Parce que Inga 3, comme vous le savez, c'est la première phase du grand projet qu'on appelle Grand Inga. Grand Inga va être constitué des phases Inga 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais la première phase, jusqu'à présent, cela fait plus de 30 ans, voire même 40 ans qu'on en parle, et ça n'évolue pas.
Qu'est-ce qui fait que les travaux n'évoluent pas?
Voilà, je pense qu'il y a deux faits majeurs, deux actions majeures, deux contraintes majeures qui font que ça n'évolue pas. C'est d'abord la volonté politique, mais il faut ajouter inébranlable, c'est-à-dire pas des effets d'annonce, mais avec une gestion d'obligation de résultat. Il faut qu'on arrive au résultat. Ça, ça manque. Deuxièmement, le climat des affaires. Et le climat des affaires, là, tout le monde est d'accord, il faut l'améliorer. Parce que les développeurs privés ne manquent pas, les financements ne manquent pas, mais il faut articuler tout cela et c'est ça le climat des affaires qui fait un peu un handicap au développement d'un projet comme celui-là qui demande une sécurisation juridique et qui demande une sécurité de rentabilité des investissements que les développeurs viennent mobiliser pour un tel projet qui coûte des milliards de dollars. Si hier, nous étions exportateurs d'énergie électrique à 5 pays différents, Congo, Angola, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, même Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous sommes importateurs nets à partir de là où on exportait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que là, l'État propriétaire, l'État régulateur doit prendre ses responsabilités vite pour que nous puissions assurer le développement énergétique de ce pays.
Et dans tout ça, c'est l'État qui n'avance pas les choses. Il y a une lourdeur administrative dans ce sens.
Jusque-là, il y a une lourdeur administrative. Pour utiliser un mot pudique, il y a une lourdeur administrative. Mais depuis quelque temps, nous avons vu que le chef de l'État, le président de la République, a mis de nouveau ce grand projet à l'agenda du jour. Nous voyons que le ministre de Ressources hydrauliques et électricité est en train de tout faire pour revoir l'aspect institutionnel, l'aspect juridique. Il y a même eu la loi de 2014, la loi sur l'électricité, qui vient d'être révisée en février 2025. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant qu'on mette les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, et qu'on puisse évaluer comment est-ce que maintenant on peut prendre le bon pied pour développer ce grand projet.
Et le projet Grantinga, une fois opérationnel, quel sera son impact?
L'impact doit d'abord nous concerner nous-mêmes, la RDC. Nous sommes dans un déficit énergétique. On parle de 600 MW pour la ville de Kinshasa, ça peut aller jusqu'à 1000 MW, et on parle maintenant de 2000 MW ici au Katanga. Donc déjà, 3000 MW trouvent déjà leurs clients, donc nous devons absolument battre le déficit énergétique interne. Et ensuite, maintenant, penser à exporter parce que la vocation d'Inga, c'est une vocation d'exportateur d'énergie électrique. Alors que vivement que ce projet puisse voir le jour dans les 5 ans et dans les 10 ans qui viennent.
Cette question est débattue ici à DRC Mining Week. Est-ce que cela a un impact? Si cette question est débattue ici à cette activité.
Oui, DRC Mining Week, c'est voir de quelle manière assurer le développement des mines, le développement de l'industrie minière. Cela va avec les intrants. Et le premier intrant des mines, c'est l'énergie électrique. Sans énergie électrique, ce n'est pas possible de développer les mines. Nous avons entendu l'adresse de M. Hugo Sinza de TFM qui a dit qu'ils avaient commencé à 500 000, 1 million, 1 million 5, 2 millions 5 et ils ont fait l'année dernière 3 millions de tonnes. Mais ils l'ont fait justement grâce à l'énergie importée, grâce à l'énergie venant de groupe diesel. Pourquoi? Parce que sur les 2000 MW, eh bien, SNEL ne peut donner que 700 MW. D'ailleurs, nous avons entendu le DG de la SNEL affirmer qu'il n'y a que 30% des besoins en énergie électrique des mines qui peuvent être couvertes par la SNEL dans l'état actuel des infrastructures de production d'énergie électrique en RDC. Donc, il y a un déficit d'énergie électrique qu'on doit absolument adresser. Donc, des conférences comme DRC Mining Week, c'est vraiment l'occasion pour vraiment faire le point où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui manque.
Monsieur Vika Dipanzou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie et très bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.